carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Le musée Marmottan en Monet présente 50 œuvres d'artistes expressionnistes et fauves issues des collections du musée Van der Heydt de Wuppertal du 28 octobre 2009 au 20 février 2010 à Paris. Cette exposition, fauve et expressionniste de Van Dagen à Autodix, est réalisée dans le cadre d'un échange entre le musée Marmottan en Monet et le musée Van der Heydt. Elle met l'accent sur les deux principaux mouvements qui marquèrent l'avènement de l'art moderne en Allemagne après la Première Guerre mondiale. Ainsi, la sélection s'étend de Munch, Nolde, des fauves français, Dufy, Braque, Vlaminck et Van Dagen, des artistes du Brücke et du Blaue Reiter, aux représentants de l'expressionnisme autrichien comme Kokoschka et Oppenheimer, et jusqu'aux principaux protagonistes de la nouvelle objectivité, Beckmann, Autodix et Georges Grosz. Quelle différence observe-t-on entre les expressionnistes allemands et les fauves français? Retrouvons dans cette émission l'interview de Jacques Tadéhi de l'Académie des Beaux-Arts, directeur du musée Marmottan, puis celle de Gérard Fink, commissaire de cette exposition et directeur du musée Van der Heydt. Jacques Tadéhi, bonjour. Pourquoi avoir invité l'expressionnisme dans le haut lieu de l'impressionnisme au musée Marmottan-Monet?
Pourquoi avoir choisi cette exposition? Tout simplement parce que j'avais été très intéressé par le musée de Wuppertal. J'ai rencontré l'an dernier le docteur Fink et que lui-même était intéressé à l'idée de faire une exposition Monet. Et il vous dira lui-même que cette exposition, dont nous lui avons prêté nous une trentaine d'œuvres, il a complété avec des œuvres d'autres musées, j'y suis allé il y a 15 jours, et c'était son exposition a beaucoup de succès puisqu'il y a plus de 2000 visiteurs par jour. Alors donc ça explique l'engouement de Monet et ça explique aussi son désir de faire venir des Monets. Donc moi je lui ai proposé de faire un échange et de faire à la même époque une exposition, comme lui a une collection extraordinaire puisque vous venez de la voir, collection extraordinaire d'expressionnistes et puis quelques fauves, et ça m'a intéressé de faire venir cet ensemble à Paris. Et ce n'est pas la première fois que nous le faisons, et ce n'est pas la seule fois où nous le ferons, puisque l'année prochaine, j'organise avec le musée Thyssen-Bornemisza de Madrid une exposition sur Monet et l'abstraction. Nous prêtons à quelques Monets à Madrid, et après eux nous prêtent des tableaux abstraits, Pollock, Rothko, Joan Mitchell, etc. Donc je crois que c'est une bonne chose de pouvoir faire des échanges avec des musées qui ont des collections non pas équivalentes, mais qui ont comme nous des collections assez exceptionnelles et qui ont envie de... Vous savez, un musée ne peut pas vivre uniquement de ses collections permanentes. Il faut renouveler le public. Quand le public est venu une fois, il faut qu'il ait envie de revenir. Or, le fait de le faire revenir, c'est de lui montrer d'autres choses et des choses qui sont captivantes. Alors l'an dernier, quand nous avions fait l'œil impressionniste, nous avions demandé pas mal de monnaies que nous n'avions pas, par exemple à Orsay, une autre cathédrale, enfin. Et là aussi, c'est l'intérêt de ces échanges, c'est de renouveler un peu ce que nous présentons à un public qui aime bien l'endroit, mais qui pourrait se lasser de voir toujours les mêmes choses.
Vous-même, quand vous avez vu ce nouvel accrochage en bas, dans les salles du bas du musée Marmottan, quelle impression?
J'ai participé activement, nous avons déballé les tableaux qui sont arrivés de Wuppertal. Nous avons commencé l'accrochage vendredi, samedi, et on a hésité sur la position de certains tableaux, parce que un fait chanter l'autre, hein, c'était les positions, les tailles des tableaux, les éclairages, et tout de suite j'ai vu que cette exposition serait, enfin j'espère, aura du succès, parce que c'est toute une peinture, Kirchner, Beckmann, tout ça, Kokoschka, qui est mal connue du public français. Je ne parle pas des fauves, parce que, bon, Vlaminck, Van Dagen, il est certain que cette exposition apporte à un public une ouverture sur des peintures assez exceptionnelles, qui ne sont pas choquantes, qui ne sont pas déstabilisantes, mais qui montrent cette espèce de force de la couleur et des théories des peintres allemands du début du siècle.
Et quelle est votre préférence, si c'est possible?
Oh, écoutez, il y a plusieurs tableaux qui ont mon préférence. Bien sûr que la femme au Piwan de Janowski me plaît beaucoup. C'est pour ça que nous l'avons choisi pour faire notre visuel. Mais le Marc me plaît beaucoup. Kirchner me plaît beaucoup. Certains que le petit Braque me plaît beaucoup. Tout est intéressant. Les Kandinsky sont intéressants, les Kokoschka. Je pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait des choses mineures. Tout est vraiment très varié.
Je vous remercie beaucoup, monsieur.
Merci.
Après avoir entendu Jacques Tadi de l'Académie des Beaux-Arts, retrouvons tout de suite Gérard Fink, commissaire de cette exposition et directeur du musée Van der Heydt de Wuppertal. Docteur Fink, vous offrez là au public un panorama assez saisissant avec 50 toiles qui vont des fauves français à l'expressionnisme allemand et au-delà un petit peu, même jusque dans les années 40. Alors qu'est-ce que vous avez voulu montrer principalement et comment est né ce projet, fauve et expressionniste ?
Oui, il y avait des discussions avec le directeur du musée Marmontant-Monet, Monsieur Tadi, sur la possibilité de faire une exposition ici sur les expressionnistes allemands. Et c'était très fructueux, on peut dire, parce que Monsieur Tadi était tellement gentil de nous donner 30 tableaux de Claude Monet à Wuppertal pour y faire une grande exposition sur Claude Monet. Et à contre, nous avons donné à peu près 50 tableaux de notre collection des expressionnistes. L'idée de faire cette exposition était un peu didactique, parce que on peut dire qu'en France, on ne connaît pas tellement les artistes allemands des années entre 1900 et 1930. Alors, on a fait 5 sections dans cette exposition. On commence avec les fauves français, qui sont très connus ici. Mais puis, on expose la groupe Le Pont, en allemand, Die Brücke. Et puis, dans une troisième section, on montre les artistes de Cavalier Bleu.
Du groupe des Cavaliers Bleus.
Oui, c'est le groupe du Cavalier Bleu, Der Blaue Reiter en allemand. Et on a ajouté à ça une petite groupe des tableaux de Oskar Kokoschka et de Max Oppenheimer, alors on pourrait dire le expressionnisme viennoise. Et à la fin de l'exposition, nous avons un tout petit chapitre des tableaux de Otto Dix et de Max Beckmann, qui sont déjà des artistes qui ont quitté l'expressionnisme. Ils sont plus ou moins dans une région dans laquelle on pourrait dire c'est le nouveau objectivisme des années 20. À la fin de l'exposition, il y a un tout petit cabinet dans lequel nous montrons des portraits des artistes allemands, des autoportraits.
Des estampes.
Des estampes, oui, des aquarelles ou d'autres choses comme ça.
Il y avait une volonté particulière de montrer une vision européenne de cette peinture, comme ça, en confrontant plusieurs cultures voisines.
Oui, il y a beaucoup des expositions qui se concernent à des intérêts nationaux. Mais je pense qu'il faut voir beaucoup des liens entre les paysages et les pays. Mais je pense qu'il y a la nécessité de faire voir les liens entre les pays et les nations. Et dans cette exposition, nous pouvons faire ça très bien, je pense, avec les tableaux du fauvisme et les expressionnistes allemands, des mouvements parallèles, on peut dire. Parce qu'au moment que les fauvistes gagnent leur nom, en 1905, ici en France, la groupe de la Brücke, le pont, est fondée à Dresde en 1905. Alors c'est un mouvement parallèle, on peut dire. Il y a des différences entre les deux groupes, mais c'est donc un phénomène européen.
On a dû vous poser la question plusieurs fois, justement, de ces différences entre les fauvistes plutôt français et puis l'expressionnisme allemand. Quels étaient les échanges entre ces groupes ?
Oui, on peut dire on se connaissait. Les artistes allemands ont beaucoup voyagé en France, spécialement à Paris, et là ils ont vu les tableaux de leurs amis et des artistes français, alors on se connaissait. Mais il y a donc aussi les différences. Il ne faut pas que j'explique le fauvisme ici, mais l'expressionnisme allemand, c'était un mouvement qui a essayé de trouver une nouvelle image de l'homme sans faute, de l'homme des temps au paradis.
Des temps nouveaux ?
Oui, on peut dire des temps nouveaux, mais les temps nouveaux, on ne s'imaginerait pas comme les temps avec les train et le téléphone et toutes les choses de l'invention ingénieuse.
Oui, est-ce que dans l'expressionnisme allemand, il y a davantage la recherche d'un idéal par rapport aux faux français qui étaient plus, non pas enfermés, mais plus enclins à une recherche esthétique ? Est-ce qu'il y avait un supplément ?
Oui, on pourrait dire, je pense, que c'est un supplément allemand que l'on fait à la recherche esthétique de la France. C'est cette recherche pour l'homme pur, l'homme sans faute, un nouveau homme qui est, oui, sans faute, on peut dire, sans péché. Et on essaie de le trouver dans l'homme nu. Il y a beaucoup de scènes de baignades nues dans les lacs de Moritzburg à Dresde, où il y a dans l'exposition cet magnifique tableau de Erich Haeckel qui montre deux jeunes filles avec une auréole. On pensait au premier moment que ça, ce sont des saintes, mais ce sont seulement jeunes filles sans péché. Et ça, c'est un mouvement très intéressant, très optimiste, on peut dire, très, avec beaucoup de pathos, on peut dire. Mais il y avait aussi des artistes qui ne croyaient pas ça. On peut dire que Franz Marc, il méfiait des gens. Il était le grand ami des animaux, on peut dire. Il a peint des animaux comme des figures idéales, comme les figures sans faute, comme les animaux du paradis.
Il y a un très bel exemple là d'une toile qui s'appelle Renard bleu noir. Vous pourriez nous la présenter un peu ?
Ah oui, on a l'idée que le renard est un animal très méchant, on peut dire, et normalement il est entre brune et rouge. Franz Marc, il le peint en lilas parce qu'il donne le renard son couleur rouge, mais aussi le bleu du ciel, le bleu de la romantisme, on peut dire, le bleu de la clarté, de la pureté. Et alors le renard, ça s'exprime en une espèce de lilas. C'est une couleur symbolique, on peut dire. Et il fait ça avec des autres animaux quand même.
Dans l'accrochage que vous avez souhaité en bas, dans le parcours présenté au public, comment vous avez présenté ce passage, justement, entre ou ces échanges entre les fauves et puis les expressionnistes ? Sur quel exemple pourriez-vous vous appuyer pour nous expliquer ce lien ?
Ah oui, il y a un très grand tableau dans cette exposition, c'est de Robert Delaunay. Et malheureusement, ce tableau n'appartient pas à notre musée, mais c'est le tableau d'un grand collecteur à Wuppertal. Il a prêté ce tableau pour cette exposition. C'est un tableau de Robert Delaunay, qui était un grand ami de Franz Marc et de Macke et aussi de Kandinsky. Et il a influencé beaucoup les artistes allemands. Il avait une grande exposition à Hanovre qui a montré cette influence cette année. C'était l'exposition de Delaunay, Macke et Marc.
Il y a aussi dans ce parcours un chef-d'œuvre. On ne voit qu'elle une fois que les yeux se sont posés sur cette toile. Est-ce que vous pouvez nous parler de la jeune fille au pivoine ?
Ah oui, la jeune fille au pivoine d'Alexei Yavlensky. Peut-être c'est un de nos chefs-d'œuvre de tout le musée. Nous avons des tableaux magnifiques, mais ça c'est un des plus grands, on peut dire. Alexei Yavlensky avait peint ce tableau de cette jeune fille au pivoine en 1909. Mais il avait une exposition à Wuppertal. Et c'était un de ses expositions très tôt. Et dans cette occasion, ses amis Bechtejev et Erbsle venaient de Wuppertal, ils ont acheté ce tableau et ils ont fait une donation au musée. Alors ce tableau est venu dans le musée von der Heydt en 1911. Et c'est un temps très tôt, on peut dire, pour un tableau tellement avant-garde. C'est un des plus beaux tableaux de notre musée. Il y a des rouges dans ce tableau magnifique qui sont balancés par un vert qui est presque bleu. C'est un équilibre très très précaire qui est tenu d'une jaune et d'un noir. C'est incroyable comme Yavlensky a fait ça.
Vous nous dites une des plus belles pièces de votre musée qui accueille à peu près 200 toiles vous avez actuellement. Quelle est un peu l'histoire de ce fonds du musée Van der Heijt?
Ah oui, le musée Van der Heijt s'était fondé en 1902. C'est resté un musée communal. Il avait beaucoup de donations de la famille Van der Heijt. C'était August Van der Heijt et Eduard Van der Heijt qui étaient banquiers. Ils ont donné beaucoup de tableaux dans ce musée, mais il y avait aussi beaucoup d'autres familles de Wuppertal qui étaient collecteurs et qui ont donné leurs tableaux dans le musée. Il faut dire que malheureusement, le musée a perdu, pendant cette action de l'art dégénéré en 1937, à peu près 150 tableaux.
Qui ont été retirés et fait partie des spoliations?
Oui, ils étaient retirés par l'État et ils étaient vendus et d'autres tableaux étaient détruits. Il faut dire que toute la Deuxième Guerre mondiale a fait perdre à peu près 2000 tableaux dans ce musée.
2000, j'avais retenu 1000 tout à l'heure,
oui,
simplement.
Oui, 2000 tableaux. C'est 2000 tableaux que nous avons perdus. Il y avait un grand bombardement de Wuppertal. Là, il y avait eu des destructions. Et il y avait aussi d'autres tableaux qui étaient redonnés aux donateurs pour les préserver dans leur cave, on peut dire. Mais dans ce bombardement de Wuppertal, ils sont 2000 tableaux qui sont perdus.
Dans l'exposition, vous présentez à la fois des figures, on va dire, des autoportraits. Il y a toute une série sur les autoportraits qui sont saisissants parce que je crois qu'on ne les connaît pas en France, ces autoportraits-là, ou très peu. Est-ce que vous pourriez nous les présenter? En plus, il y a différents... Il y a une petite évolution là aussi sur ces portraits présentés au fur et à mesure de l'exposition.
Ah oui, il y a dans notre musée, le musée Van der Heijt à Wuppertal, à peu près 30 000 dessins et gravures. C'est une très grande groupe. Et entre eux, nous avons un groupe spécial, on peut dire, des autoportraits, des portraits des artistes. Il y a le portrait de Erich Haeckel, de Schmidt-Rottluff, de Otto Dix, de Kirchner.
Et là, vous en présentez?
Oui, nous présentons ici, dans l'exposition, quelques-unes de ces gravures. Et spécialement, je pourrais dire, il y a une gravure sur bois. C'est de Erich Haeckel. Ça, c'est un des chefs-d'œuvre, on peut dire, de la gravure sur bois de l'Allemagne.
Qui la montre les mains jointes dans une position un peu particulière, avec tracé noir sur un fond vert. C'est très... très moderne, en fait.
Oui, absolument, c'est très avant-garde. Peut-être c'est le portrait d'un homme qui est très concentré, qui pense. Il y a le fameux penseur de Rodin, mais ça, c'est une autre méthode de penser. On voit que cet homme a un énorme front et il regarde très intéressé, très fixé sur un point, on peut dire. Et il a ses mains serrées. Alors, c'est l'expression d'une pensée, on peut dire, très allemande, très expressionniste.
Quel était le point commun à tous ces artistes?
Il y avait peut-être un point commun. Au centre de l'expressionnisme et de toute cette époque, il y a une galerie qui était à Berlin. C'était la galerie Der Sturm. C'était mené par un monsieur qui s'appelait Herwart Walden. Herwart Walden avait un point de vue très riche, très, très grand. Il avait dans sa galerie les expressionnistes de la groupe Dupont, il avait les expressionnistes de la groupe Cavalier Bleu, il avait les futuristes, il avait la Chagall, il avait les constructivistes russes, il avait là aussi les tendances de l'objectivité nouveau. Alors ça, c'était le centre, on peut dire, du monde allemand artistique aux années 10 et 20. Et il était très ouvert à la littérature parce qu'il était marié avec Else Lasker-Schüller, une poète qui était née à Wuppertal. Et il était ouvert aussi à la musique. Il avait des relations avec Schönberg, Hindemith, Anton von Webern. Sa première exposition qu'il a faite, c'était Oskar Kokoschka. Alors, c'est Herwart Walden qui est au centre de la vie artistique de l'Allemagne. Et maintenant, nous préparons déjà une exposition qui commencera en 2011 à Wuppertal sur la galerie Der Sturm.
Dr Fink, pour vous, comment s'est exprimée leur liberté d'artiste ?
Ah, il faut dire que presque tous les artistes étaient très pauvres. Parce que les gens en Allemagne, ils avaient à cet âge tout un autre goût. Et le empereur allemand, Guillaume II, il a dit de cet art que c'est l'art de caniveau. Alors, on peut dire qu'à 7 ans, on n'a pas compris que ces artistes ont fait. Il y a seulement quelques-unes collectionneurs qui ont acheté ces tableaux, mais la plupart de la société allemande ne comprenait pas ça. Alors c'était une liberté artistique quand même, on peut dire.
Qu'est-ce qui a fait leur, non pas leur succès dans le temps ? Aujourd'hui, ce sont des œuvres qui nous parlent immédiatement. On est subjugué, on est impressionné par la couleur. Ce sont des images qui nous viennent à l'esprit sans frontières pour nous. Il n'y a pas de parfum de scandale, mais il y a toujours beaucoup de force. Qu'est-ce qui fait la pérennité de ces œuvres, là, sur un siècle, pour vous qui les voyez tous les jours?
Oui, peut-être que c'est l'idéalisme de ces artistes, de l'idée de trouver un homme sans faute, un homme sans péché. Ça, c'est donc une idée que nous avons tous. Ça se réunit, nous, d'aujourd'hui, avec les artistes des années 10 et 20.
Surtout que vous voulez faire justement le pont entre le passé et leur présent.
Oui, c'est comme les artistes avaient su ça. Ils ont donné à leur groupe ce nom, Le Pont. Et Kirchner, qui a fondé cette groupe, il a dit, nous avons pris ce nom Pont pour notre groupe parce que nous étions sur la côté du traditionnalisme et sur la côté d'une société corrompue. Et on voulait aller sur une pente et à l'autre côté sur un futur nouveau, sur une société libérale, sur une, oui, on peut dire, un monde plus beau et plus juste.
Merci beaucoup, Dr. Fink.
Merci à vous.
Vous venez d'entendre Jacques Tadéhi de l'Académie des Beaux-Arts et directeur du musée Marmottan, et Gérard Fink, commissaire de l'exposition Fauve expressionniste de Van Degen à Autodix, présente à Paris au musée Marmottan du 28 octobre 2009 au 20 février 2010. Gérard Fink est également directeur du musée Van der Heide de Wuppertal.